Ah, le droit de regard, c'est une expression qui revient comme un refrain au sujet, vous savez, de l'album posthume de Johnny Hallyday. Quels sont ses héritiers et qui précisément pourra exercer un droit de regard ? À noter que ça peut paraître étrange, dans un contexte musical, on devrait parler de droit d'écoute, mais bon, c'est un terme générique, pas vraiment juridique. En fait, le droit de regard, ou plutôt le droit moral, c'est une garantie du droit d'auteur en France, un droit que l'auteur, et uniquement l'auteur, peut toujours exercer, ou que peuvent exercer, le cas échéant, ses héritiers. Mais dans le cas où l'auteur aurait donné son point de vue de son vivant sur son œuvre à paraître, ce qui semble être le cas de Johnny pour cet album posthume, le simple fait de faire valoir un droit de regard aujourd'hui, c'est aller potentiellement contre son avis. Ça pose de vraies questions sur le droit d'auteur, mais aussi sur le droit de l'auditeur. Parce qu'après tout, je me disais, moi aussi, nous aussi, on pourrait faire valoir notre droit de regard. Tout dépend ce qu'on entend par regard, pas forcément la surveillance ou le contrôle, juste un point de vue. Dans un livre de photos qui s'appelait « Droit de regard », justement, le philosophe Jacques Derrida rappelait que le public a toujours lui aussi un droit de regard. Ce droit d'interpréter, qui échappe totalement à l'auteur, et que ce dernier, même si c'est extrêmement violent, doit apprendre à accepter, tout comme ses héritiers.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a tout comme moi un droit de regard sur l'œuvre de Johnny dont il est un fervent admirateur. En ce qui le concerne, il est devenu en un rien de temps et quelques millions de disques vendus, l'une des plus grandes stars du rap et de la chanson française. Son troisième album, Ceinture Noire, est sorti vendredi dernier. Il est déjà en tête des ventes en France. Ça s'appelle Ceinture Noire, hein, vous êtes prévenus. Bonjour Maître Gims.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là tout à l'heure.
Merci à vous.
Peut-être un mot sur Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Johnny, depuis toujours, pour moi, c'est un monstre sacré de la musique. Il est irréel. Il est Johnny. C'est une rockstar. C'est notre Mick Jagger. C'était voilà. Donc Johnny, ça représente. Je vois le Stade de France. Je vois des flammes. Je vois l'orage. C'est ce qui me faisait ressentir Johnny.
Le Stade de France, vous allez bientôt le faire, il paraît.
Bientôt, ouais.
Donc c'est un modèle pour vous, ce type de concert.
Bien sûr. J'ai regardé ses concerts, c'est en boucle, ses entrées, c'est impressionnant.
Il est présent dans votre musique, Johnny Hallyday, dans ce que vous faites ? Il y a un peu de Johnny ?
Je pense au niveau de façon, la façon d'interpréter certains textes, la façon de gueuler sur des morceaux, dans une certaine façon. Je pense.
Et je vous ai entendu, Maître Gims, dire que vous auriez aimé écrire ou produire un album de Johnny Hallyday.
Ah oui, surtout chanter avec lui.
Vous aviez quelques idées déjà ?
Ouais, j'avais des idées. J'ai jamais pu le rencontrer.
Lesquelles ? Vous pouvez nous dire les idées, c'est des scoops. Hein,
j'avais des textes, j'avais des sons qui me faisaient penser à lui, où je voyais bien Johnny sur le refrain. J'imaginais un scénario, des clips, etc. Sincèrement.
En tout cas, ce que j'entends, moi, derrière cette admiration pour Johnny Hallyday dans votre discours ce matin, c'est que les frontières entre les genres musicaux, elles sont de plus en plus floues. Quand vous dites que le rap, c'est la nouvelle variété, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire par là que le rap aujourd'hui a pris une telle dimension, a montré tellement de facettes qu'aujourd'hui il est varié. Donc on n'a plus seulement ce côté du rap hardcore, de la banlieue, des quartiers sensibles, etc. On a un rap aujourd'hui qui propose autre chose. On a un rap aujourd'hui avec beaucoup de mélodies, beaucoup d'humour. Donc c'est devenu, je pense, la nouvelle variété.
Et vous, votre objectif, c'est de faire une musique aussi populaire que possible ?
C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire la musique qu'on aime, c'est de faire ce qu'on aime dans un premier temps. Parce que je pense que quand on commence à faire des choses uniquement pour les gens, uniquement pour plaire, on est dans une forme déjà de... Il n'y a pas de sincérité dans les textes, il n'y a pas de sincérité dans l'acte en lui-même, donc on perd quelque chose. Il y a une part de magie dans la musique, et cette part-là, il ne faut pas la perdre. Cette magie, elle appartient à... Justement, c'est spontané.
Au risque de déplaire à certains puristes du rap.
En plus de ça, oui. Bon, il y a toujours un lobby, oui, de puristes, etc. Il y en a qui sont contre cette évolution.
Carrément.
Ah oui, il y a un lobby. Il y en a qui sont contre un peu cette évolution du rap, qui sont, les orthodoxes du rap.
C'est intéressant parce qu'il y a quand même un tournant dans votre conception du rap, Maître Gims. Ça s'est fait à quel moment, vous, qui avez pratiqué un rap beaucoup plus traditionnel au temps de Section d'Assaut ?
Ouais, exactement. Ça s'est fait à quel moment ? Ça s'est fait sans même que je puisse m'en rendre compte réellement. Ça s'est fait à l'époque de Section d'Assaut déjà, sur le titre Désolé, qui avait super bien marché, et sur lequel on chantait. C'était une des premières fois qu'on chantait tous, on chantonnait. Et ça a commencé là.
Révélation.
Ils ont changé, machin. Donc les puristes, hein, le lobby, ils ont changé. Les messages sur Internet, c'est inadmissible, machin, etc., etc. On les a perdus. Et par la même occasion, on a gagné un nouveau public qui était beaucoup plus large, du coup.
Et vous n'avez pas hésité longtemps?
Non.
Bon, on va en reparler, évidemment, de cette question de la chanson, mais c'est quand même votre première fois sur France Inter, Maître Gims. Alors, on a voulu faire les choses en grand. Je demande aux auditeurs de desserrer le nœud de leur cravate, hein, d'enlever leurs chaussures, de laisser tomber la veste, de se mettre à l'aise, parce que ça va se chauffer. Dans les chaumières, Maître Gims, pour ceux qui seraient passés à côté, c'est d'abord une fille qui répondait au nom de Bella.
Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là.
Qui vous oblige à être sapé comme jamais. Une fille à qui vous n'arrêtez pas de poser les mêmes questions. Jusqu'au moment où vous lui dites, Maître Gims, je m'attire.
Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire.
Alors évidemment, c'est un résumé hein, sous forme de comédie musicale.
Très bien fait.
Maître Gims, votre troisième album Ceinture Noire vient de sortir et réunit plus de 40 chansons, ce qui défie quand même tous les codes de production d'albums. Aujourd'hui, 40 titres, c'est énorme. Pourquoi autant?
Pourquoi autant? Oui, c'est énorme, c'est vrai. Parce que je ne voulais pas me brider et je voulais pas choisir. Je voulais pas choisir tel ou tel titre, pas celui-là, parce que je voulais pas passer à côté de quelque chose.
Vous voulez dire qu'il n'y en avait pas plus que 40, là, pour le coup?
J'en avais plus que 40.
Ah, donc vous avez quand même choisi. Oui. Somme toute.
Enfin, j'ai pas vraiment choisi parce que c'était pas terminé en vérité les autres. C'était encore en travaux. Mais les 40 étaient terminés. Et en vérité, il aurait fallu choisir. En général, ouais, il faut choisir quoi? 15, 16? Ouais. Non, je voulais pas.
Comment on fait pour pas se répéter? Autant dans la musique que dans les textes?
Je pense qu'il faut écouter, les autres. Il faut écouter autre chose. De la musique, tout simplement. Peu importe le style. Il faut être observateur.
Et c'est quoi un bon titre pour vous, Maître Gims? C'est quoi vous le reconnaissez?
Un bon titre, à quoi on le reconnaît? C'est une belle question. Je pense qu'un bon titre, déjà, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est un titre qui va plaire sans forcément qu'on comprenne les paroles. C'est un titre qui peut plaire à... qui peut arriver en Chine et qui peut faire danser des Chinois.
Donc c'est le public qui décide, en fait.
Oui, c'est le public qui décide. Ça se ressent. C'est le langage un peu de l'âme, la musique, pour moi. C'est un langage en soi. Donc c'est ça, un bon titre.
C'est intéressant parce que vous avez grandi dans une famille de musiciens. Votre père a travaillé avec Papa Wemba. Vos grands-parents, je crois, chantaient également. Qu'est-ce que vous lui devez à votre famille, musicalement, Maître Gims? Qu'est-ce qu'elle vous a appris?
Bon, elle m'a appris, j'ai pu baigner dans la musique assez tôt, donc je pense que j'ai gagné beaucoup de temps. Donc j'étais déjà à l'école, à la maison, donc à l'école de la musique. Donc je pense que j'ai assimilé des choses sans même m'en rendre compte.
Quel rythme, quel son, quel tempo?
La rumba congolaise.
Qui était partout?
Qui était partout, tout le temps à la maison.
Et qui est encore partout aujourd'hui dans votre travail?
Qui est encore là, partout. Ben, un titre comme Ça paie comme jamais est inspiré purement de la rumba congolaise. Donc j'ai pu mélanger ce style-là, justement, le ramener dans l'urbain et en faire quelque chose d'autre.
Et vous vous sentez porteur de cet héritage qu'est la rumba congolaise aujourd'hui?
Un petit peu, mais surtout, je pense que ce que j'ai pu accomplir avec la section, c'est de proposer un rap plus accessible, ce fameux mouvement de la pop urbaine. ces nouveaux termes d'ailleurs qui sont nouveaux, qui n'existaient pas. La pop urbaine, donc c'était de la pop avec un peu de couplet rap par-ci par-là, etc., fait par des rappeurs qui a donné la pop urbaine. C'est assez magnifique.
Ça vous va, vous?
Moi, moi, oui.
Ouais, ça tombe bien, parce que
je trouve ça cool.
Il y en a une, figurez-vous, dans cette émission qui se revendique de la pop urbaine, c'est la culture et son actualité complètement exhibitionniste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 27 mars?
I'm just a kid from the US, skating, that's like where I came from.
Pablo Alam, la marque Louis Vuitton, a annoncé hier la nomination du créateur ultra-tendance Virgil Abloh à la tête de ses collections Homme, directeur artistique inclassable, formé au génie civil, au design industriel et à l'architecture. L'artiste noir américain originaire de l'Illinois fut longtemps le bras droit de Kanye West, tête du très pointu projet Off-White, connu pour ses collabs avec Nike ou Jimmy Choo. Virgil Abloh devrait faire souffler un vent street chic sur la griffe au monogramme. On est fan.
On me voit, on ne boit plus. On me voit, on ne me voit plus.
Guernica, on le voit, on ne le voit plus. Le musée Picasso à Paris inaugure aujourd'hui une exposition inédite consacrée au chef-d'œuvre de 1937. Mais particularité de l'événement, le tableau de 3 mètres sur 8, Guernica n'est pas visible. Il est resté dans son musée à Madrid. C'est donc à travers des archives, des esquisses et des photos que l'expo revient sur l'histoire et l'héritage de l'œuvre, symbole de la lutte contre la barbarie et de l'engagement politique du maître. Audacieux. Cette fois, c'est la bonne. D'après Variety, les Spice Girls, dont on espère l'éternel retour depuis 2012, ont repris le chemin des studios, mais d'animation cette fois, car le girls band culte des années 90 prépare un film de super-héros animé. Victoria, Jerry, Melcy, Melby et Emma ont accepté de prêter leur image et leur voix à des personnages d'héroïnes de fiction pour, je cite, « transmettre un message de girl power ». You go, Spice Girls!
Vous espériez trouver le bonheur dans les lits?
Le bateau-livre reste à flot. C'est la conclusion de l'étude menée par l'Observatoire de l'économie du livre. On retient notamment que 52% des Français ont acheté au moins un livre en 2017, un tout petit peu moins qu'en 2016, mais aussi que le japonais est la deuxième langue la plus traduite après l'anglais. Et enfin que le roman le plus vendu de l'année est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano, écoulé à 735 400 exemplaires en version poche. Et Maître Gims, invité de Boomerang ce matin, je vous ai vu ravi d'apprendre que les Spice Girls faisaient leur retour.
Ah bah oui, non, ça fait partie un peu de ma vie. Hein. J'ai été là à cette époque où ça a explosé.
Franchement, est-ce que c'était pas un bon titre ou un avis?
Ah bah oui.
Excellent titre.
Là, vous l'avez repassé, c'était souvenir.
Un extrait quand même. Souvenir, carrément. Vous êtes invité ce matin, Maître Gims, pour Ceinture Noire, votre troisième album. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en 3 disques solo, vous êtes devenu l'une des figures les plus populaires de la chanson française. Vous êtes arrivé en France avec votre famille à la fin des années 80. Vous aviez 2 ans. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette installation, du moment où vous êtes arrivé?
Quelques flashs des débuts, justement, ma scolarité. Donc, mes premiers vrais souvenirs, quoi. L'école, les professeurs, les camarades, les centres de loisirs. Vraiment que tous ces souvenirs-là, quoi.
Là, vous racontez les bons souvenirs. Et dans le livre que vous avez écrit?
Oui, dans le livre que j'ai écrit.
Il y en a des moins bons.
Oui, il y en a des moins bons. Je prends conscience de certaines choses et voilà, je réalise qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas comme tout le monde, etc. Donc, je vis avec ça tous les jours. Je le cache à l'école, je le cache aux copains, mais voilà, on est une famille qui on vit dans des squats. Donc, on fait 1 an par-ci, 2 ans par-là, 3 ans, et à chaque fois on rebondit de maison en maison comme ça dans des situations compliquées parce que voilà, on est des parents sans papiers qui ne travaillent pas forcément, les enfants sont scolarisés. Donc j'évolue, je grandis dans cet univers-là.
Et la question du racisme dont vous parlez dans votre autobiographie Vise le soleil, elle est centrale en ce moment. Racisme contre lequel le Premier ministre a récemment proposé un nouveau plan de lutte. Comment vous avez fait pour la surmonter, cette question-là?
Moi, je pense que je l'ai surmonté. Je me souviens avec ma petite sœur, on s'amusait beaucoup dans les squares, etc. On se baladait, donc on rencontrait beaucoup de monde, dont des racistes. On se faisait parfois insulter par des gens. Mais bon, étant gamin, on prenait ça comme un jeu. On n'était pas vraiment conscient de ça. Je pense que les gamins sont pas vraiment conscients de ça. J'ai déjà vu des scènes où des enfants à l'école, c'est pas du racisme, mais on dira, t'as une couleur, tu ressembles à du chocolat, tu ressembles à ci, t'as la couleur de la boue, etc. Donc on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre. Mais quand t'as une personne un peu plus âgée qui te balance, rentre chez toi, retourne dans ton arbre, retourne machin, tout ça j'ai entendu. C'est des choses que j'ai entendues. J'étais pas blessé, etc.
Aujourd'hui, voilà. C'est encore le cas.
C'est aujourd'hui, en fait, c'était un retardement. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est terrible quand même.
Et aujourd'hui, vous êtes encore l'objet d'insultes.
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis plus l'objet, mais quand. Quand les gens, quand des Africains comme moi sont victimes, c'est comme si c'était moi en fait. C'est comme si c'était moi dans le sens où ça aurait pu être moi, je suis passé par là, etc. Donc on aura toujours ce type de gens. Voilà, c'est une maladie. Hein.
Maître Gims, de la violence, la galère, la misère, une fois qu'on s'en est sorti, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Je pense qu'on en sort... on peut en sortir plus grand ou avec beaucoup de haine. Et en vouloir à tout le monde.
Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti plus grand? Justement, quelle a été votre force?
Je pense que ma force a été que j'ai rencontré des gens bien en France. Et j'ai rencontré des gens intéressants qui m'ont permis, qui m'ont donné ma chance et qui m'ont permis de voir d'autres choses. Donc du coup, j'ai oublié les racistes et tout, c'était tellement petit. Donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer.
Ça aurait pu mal tourner?
Bien sûr. Moi, j'ai grandi donc dans des quartiers sensibles. Il y avait plein d'autres choses à faire. Il y avait plein d'autres chemins obscurs. Hein, la drogue, la violence, le racket. Donc, vous imaginez, vous subissez le racisme, etc. Tu es prédestiné limite à devenir violent et à vouloir répondre, monter un groupuscule, etc. C'est ce qui se passe déjà. Aujourd'hui, on a plein de petits groupes comme ça. Et moi, j'ai choisi l'art.
Pourtant, vous vous sentez porte-parole aujourd'hui de tous ces jeunes qui ont pu être dans votre situation, qui sont peut-être encore aujourd'hui?
Oui, 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 je me sens, je le réalise peu à peu, mais oui, je suis porte-parole d'une génération, je pense.
Vous dites j'ai choisi l'art, vous avez choisi la musique, en l'occurrence. À quel moment est-ce qu'elle vous a aidé? À quel moment est-ce qu'elle vous a sauvé? Précisément.
Elle m'a sauvé à partir du moment où j'ai vu que des gens commençaient vraiment à croire en moi et que je pouvais en faire quelque chose réellement, que j'intéressais des gens. C'est dingue d'intéresser des gens quand on se dit des gens m'attendent, des gens attendent quelque chose de moi, les gens aiment. On commence vraiment à exister.
Ça vous surprenait vous-même?
Oui, c'est surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant d'être attendu, d'être désiré. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de plein de choses.
Et c'est venu comment? Vous vous souvenez? Il y a eu un déclic à un moment où vous vous êtes dit...
Le déclic, bah oui, c'est quand on a monté le groupe avec les copains de la section. Donc on a monté le groupe, on a commencé à faire des petites scènes dans le quartier. La mairie nous a donné notre chance, donc ils nous donnaient des endroits, des petits plateaux, etc. pour la fête de la musique. Et ça marchait plutôt bien. Et donc on a décidé de s'y mettre à fond. Donc pour certains, on a plaqué l'école, etc. On est parti à l'aventure.
L'aventure, elle a continué, Maître Gims, ouais. Jusqu'à ce nouvel album, Solo, Ceinture Noire, et ce premier titre qu'on va entendre. Vous êtes sur France Inter avec Maître Gims, sa première fois sur France Inter, c'est quand même important de le fêter. Ouais. Vous écoutez Boomerang.
Ok, y a toute une histoire derrière nous. Comment tu veux que je donne des news? Ce n'est pas qu'une question de flouze, et tu le sais, ok. Je ne veux pas vivre dans le doute, y a rien à comprendre. Le temps va trancher entre nous. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber.
Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. finir par me rendre fou. Je n'étais pas au rendez-vous, et toi non plus. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant, mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant, mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments, quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années, et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments, tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années, et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. Accorde-moi une dernière danse, je veux savoir à quoi tu penses. Regarde dans le vide, et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Caméléon, caméléon, c'est celui qui le dit qu'il est, hein, derrière ses lunettes noires, qui ferait pâlir d'envie Karl Lagerfeld ou Barry White. Il a tout du caméléon, tantôt maître Yoda, tantôt grand avocat, tantôt samouraï, tantôt grand sage. Il est, vous vous en doutez, sapé comme jamais, t-shirt kaki, jean déchiré, montre dorée, grosses chaussures d'esprit montagnard, maître Gims, invité de Boomerang pour Ceinture Noire, ce nouvel album qui vient de sortir. Alors on vient d'en écouter le premier extrait, Caméléon, et j'aimerais qu'on revienne un peu sur le processus de création d'une chanson comme celle-ci. Comment ça commence en fait ?
Ça commence avec une mélodie qui arrive de nulle part.
Dans votre tête ?
Vraiment, vraiment, ça commence comme ça. Et on décide de mettre des paroles.
Que vous fredonnez en fait dans
votre
tête ?
Que je fredonne, que j'enregistre sur mon téléphone.
Ah ouais.
Et ensuite on a l'étape du studio, donc on crée la mélodie. On crée vraiment avec les choix d'instruments, la rythmique, la cadence, le flow. Mmh. Donc, une fois qu'on a tout ça, on y ajoute des paroles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Et on cherche un thème, on trouve un thème. Et vu que l'amour, c'est le plus beau thème, je pense.
Ah bah c'est central dans votre travail.
Oui, voilà, et même dans la vie de tout un chacun. Il y a toujours une histoire d'amour quelque part, une trahison, de la déception, de la haine.
Ouais.
Donc c'est ce que je chante le plus.
C'est intéressant que vous parliez de mélodie en fait au tout départ, parce que c'est vrai, Maître Gims, que vous chantez aujourd'hui bien plus que vous ne rappez. Chanter comme vous le faites, vous l'avez pas toujours fait. Qu'est-ce qui vous retenait en fait à une certaine époque ? Vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'époque de Section d'Assaut.
Ce qui me retenait, je pense que c'était déjà bon. On était un groupe de rap. On était nombreux. Et voilà, nous, on avait décidé de rapper. On était ce qu'on appelait des kickers, des freestylers. Donc, il n'était pas question de chanter, forcément.
C'était presque interdit dans les codes.
Voilà, presque. On était presque, voilà, dans cet esprit-là. Bien que je sois issu d'une famille de mélodistes, de musiciens. Mais voilà, on avait décidé. C'était comme ça. On rappait, quoi. C'est un peu plus tard, quand on a commencé à s'ouvrir, à voir d'autres choses, à écouter de la musique d'ailleurs, du rap américain. Je me rappelle les débuts de 50 Cent. Donc, on s'est ouvert à la mélodie un petit peu.
Il y avait une forme de timidité aussi,
oui,
de votre
oui,
part.
Bien sûr, ouais. Oui, il y a une forme de timidité. J'assumais pas totalement.
Pourquoi est-ce qu'on est plus vulnérable quand on chante plutôt que quand on rappe ?
Je pense que c'est... On a cette impression de virilité, peut-être, dans le rap, machin. On a eu beaucoup d'exemples de rappeurs américains ou français. Donc, je pense qu'on était... Et en plus, quand t'es gamin, donc, t'es beaucoup moins... Ils sont plus fermés, les ados. On est un peu plus fermés, on est toujours dans le « non, je suis pas d'accord », etc.
Et puis vous êtes du genre à vous protéger aussi.
Oui, voilà, en plus de ça.
D'où les lunettes.
D'où les lunettes qui sont vraiment une protection pour moi. Et c'est ma façon de dire, voilà, honnêtement, sans mes lunettes, je sais pas si je ferai autant de scènes, autant de concerts. Ouais, c'est
vrai. Carrément.
Ça, c'est un vrai bouclier.
Mais contre
quoi ? Je regarde pas les gens dans les yeux, en fait. Du coup, j'ai l'impression de... Je sais qu'il ne me voit pas, il voit pas mes yeux, donc je peux regarder ailleurs, quoi. C'est un masque, c'est une façon de, c'est comme si j'étais dans le noir, quoi. Je passais un concours dans le noir où je vois personne.
Mais pour autant, vous communiquez beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, Maître Gims. Vous êtes présent?
Oui, je suis présent dans les réseaux, c'est vrai, c'est vrai.
Ça, c'est pas une façon présent de se protéger, ça.
Non, mais après, on est derrière un téléphone.
Et vous êtes derrière un nom aussi, ça c'est important, ça fait partie de la même démarche, un nom d'emprunt, Maître Gims, ça vient d'où ?
Donc Gims, ça sonnait très américain. Moi, je suis fan de cinéma en général. Donc j'avais l'impression d'être un personnage de film un peu.
Mais pourquoi Gims. Pas mettre Gandhi, vous vous appelez Gandhi?
Oui, mais bon, ça c'était Gandhi le personnage, voilà, ça n'était pas qui est un personnage très charismatique, c'était oui. C'est un héros.
Oui.
Donc mais ça ne correspondait pas avec ce que je voulais faire. Donc Gims, c'était un peu plus stylé entre guillemets. Et maître, j'ai ajouté parce que je suis fan des arts martiaux, de l'Asie, du Japon, de la Chine, tous ces coins-là. Et la notion de maître, élève, c'était top de s'en servir.
C'était qui votre maître à vous?
Bon, j'aimais beaucoup, on a parlé de Yoda tout à l'heure, par exemple. Le maître Yoda, maître Okinawa, le coréen, qui a défié tous les grands maîtres en Corée, qui les a tous... Enfin, je vais rentrer dans des détails qui sont un peu complexes.
Moi, j'aimerais qu'on revienne à cette voix, maître Gims. Comment est-ce que vous la travaillez, votre voix?
Comment je la travaille? J'ai pris des, pas des cours de chant, mais de vocalise, pour justement, avant de monter sur scène, parce que, une fois, il y a une prof de chant qui m'a entendu gueuler comme un malade, sans échauffement. Elle a dit, écoute-moi bien, si tu continues comme ça, tu vas pas tenir longtemps.
Vous êtes en irlandais.
Ah ouais, tu vas pas tenir longtemps, donc viens, écoute, fais ça.
Attention, parce que si ça se trouve, elle nous écoute. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent sur France Inter. Donc faites attention à ce que vous dites quand même.
Donc voilà.
Et vous la travaillez quotidiennement?
Ouais, je la travaille quotidiennement.
Et avant un concert?
Avant un concert, surtout.
Comment?
Surtout, en chauffant. Il faut chauffer sa voix. Ça a l'air un peu bizarre. J'aime pas qu'on me voit dans non, c'est très étrange, de chauffer sa voix.
Parce que vous faites des petits exercices.
On fait des trucs bizarres, des trucs vraiment étranges,
hein. Ah ouais, c'est très, très
donc,
bizarre.
Donc, il suffit qu'on me surprenne dans ces moments-là et ils vont dire non, ils vont rappeler.
Là, je viens juste de me surprendre, je suis un peu gêné. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est le seul petit son que vous pouvez nous faire.
Oui, pendant, il y en a plein d'autres.
Un autre comme ça pour voir. Autant qu'on y est, là.
Il y a le bruit de la sirène. Et il faut monter dans les aiguilles après.
Ouais,
après,
il
après le on descend. Après ah non mais c'est dingue.
Ah,
et en vérité ça travaille vraiment. Ça a l'air fou mais tu fais ça 15 minutes et tu vois que on dirait que t'as je sais pas il y a quelque chose qui se passe au niveau des cordes et on est beaucoup mieux. T'as l'impression d'avoir avalé un micro en fait.
Vous êtes venu avec un titre. Ce matin, pour conclure cette émission, Maître Gims, c'est un titre qui n'est jamais passé à la radio.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que ce titre est particulier. Je l'ai fait quand je me suis séparé de donc mon label Watibé. Donc c'était un symbolique un peu. Il s'est passé tellement de choses. J'étais déçu de pas mal de choses. J'étais blessé. Donc c'était une façon pour moi de répondre à certaines personnes et de remercier d'autres personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont toujours soutenu et qui sont toujours là avec moi. Et je voulais pas répondre par la violence, par la haine ou quoi que ce soit. J'ai répondu avec ce que je savais faire de mieux, la musique.
On l'écoute?
On l'écoute.
C'est Marabout. Marabout.
Tu m'as vu mais tu préfères pas serrer la main. Qui doit des choses à qui, dis-moi petit malin. T'as sauté ton grand bras mais tu sais pas nager. Tu veux nous diviser mais ça va pas marcher. On était tous censés manger à la même table. J'aimerais voir le nom que j'ai dans ton portable. Fais pas le mec bien si tu croises madame. Je serai pas la main même si c'est Ramadan. Je ne voulais pas en arriver là. Mais t'as ramené les keufs chez moi. Obligé de mentir à la maman. J'ai pas la force de dire que c'est toi qui les envoie. Ça c'est la dounia, bar rempli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, ma liche c'est la dounia. J'ai grandi dans la rue, demande à ma canqueta. La ragra ça paye pas, demande à Dona Ima. M'oublie pas quand je vais retomber dans l'anonymat. Je démissionne parce que j'en ai eu marre. Et dire que toutes ces années j'étais dans les choux. Je fais confiance à la mitard, c'est Pédic Dadjou. Tous les moyens sont bons pour revenir à bout. N'achète un marabout. Va falloir justifier tous ces millions d'euros. Tu veux me faire endosser le mauvais rôle. Tu vends la confrérie car ça sent plus la rose. Finalement tu auras été ton propre bourreau. Oh yo, m'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard.
brouillard. Balakala au fic, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, mais Alice c'est la dounia. Tu m'attaques en justice, mais ça rime à rien. Tu m'as tendu la main juste pour baisser mon jean palma. Puis regarde-moi dans les yeux, on n'est pas dans le para. On aurait pu régler l'histoire avec un gros câlin. J'ai mis l'anneau magique pour voir comment tu réagis. J'bosse avec Nasser et Momo de Paris. Chasse et puis combattre comme une otarie. Oh, laisse-moi faire du sale avant qu'un autre arrive. Tu n'as jamais voulu m'apprendre à pêcher. Du moins quand tu faisais la canne à pêcher, t'es cassé. J'oublie pas d'où je viens, j'arpente les rues en vain. J'suis dans le quartier de Mondo, gardien du musée Grévin. Oh yo. M'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard. Balakala au fic, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, mais Alice c'est la dounia. Et... oh yo. M'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard. Balakala au fic, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, mais Alice c'est la dounia.
Marabout, Maître Gims. Merci infiniment d'être venu dans Boomerang. Je rappelle que Ceinture Noire, votre nouveau disque, vient de sortir, que votre tournée Le Fuego Tour débutera le 6 avril et que vous sillonnerez la France de fond en comble pendant 8 mois tout de suite sur les médias. Sonia De Villars, est-ce que vous m'entendez?
Ah ouais, la journée commence bien là.
Ah bah, je vous ai senti danser.
Bah exactement.
J'ai senti la bonne vibration. Ça les
chaloupe.
Bonnes ondes. Ça chaloupe.
Ça chaloupe.
Ça chaloupe.
Salut les amis.
Je vous écoute, à demain.
À demain.